Chapitre 6. Dans le noir, il roula deux cigarettes, les alluma, puis lui en passa une. La chambre était imprégnée de son parfum à elle, une senteur de lilas frais, touchante. L'odeur du désert l'avait recouverte. Il se rendit compte qu'il redoutait le désert qui l'attendait. « Il s'appelle North, » dit-elle. Sa voix n'avait rien perdu de sa dureté. North, c'est tout. Il est mort. Le pistolero attendit. Dieu l'a touché. Le pistolero répondit. Je ne l'ai jamais vu. D'aussi loin que je m'en souvienne, il a toujours été là. North, je veux dire, pas Dieu. Son rire en dents de scie déchira l'obscurité. À une époque, il avait une carriole à bonbons, puis il s'est mis à boire. Il a commencé à priser l'herbe, puis à la fumer. Les gosses le suivaient et lançaient leurs chiens sur lui. Il portait un vieux pantalon vert qui puait. Tu comprends?
Oui.
Il s'est mis à la chiquer. Sur la faim, il restait assis là, il ne mangeait plus rien. Dans sa tête, c'est comme s'il était le roi. Les enfants étaient ses bouffons, et les chiens ses princes.
Oui.
Il est mort juste là devant. Il est arrivé sur les planches avec son pas lourd. Ses bottes, elles étaient inépuisables, des bottes de cheminot qu'il avait trouvées sur les voies désaffectées, avec les gosses et les chiens aux talons. On aurait dit qu'il était tout en fil de fer, des cintres en berlificotés les uns dans les autres. Dans ses yeux, on voyait tous les feux de l'enfer, mais il avait un grand sourire, du genre de ceux que les enfants creusent dans leur citrouille au moment de la moisson. Ça sentait la crasse, le pourri et l'herbe. Ça lui coulait du coin de la bouche comme du sang vert. J'imagine qu'il voulait entrer pour entendre Shep jouer. Et puis, juste devant, il s'est arrêté et il a redressé la tête. Je l'ai vu, j'ai cru qu'il entendait une diligence, mais on n'en attendait aucune. Et puis, il a vomi, c'était tout noir et plein de sang. C'est passé au travers de son sourire, comme de l'eau souillée à travers une plaque d'égout. Et cette puanteur, de quoi devenir dingue. Il a levé les bras, puis s'est écroulé. C'est tout. Il est mort dans son vomi, avec ce sourire sur la figure. Une bien belle histoire.
Oh oui.
Merci, Sai. C'est un coin charmant par ici. Elle tremblait à ses côtés. Dehors, le vent sifflait toujours sa plainte monotone, et quelque part au loin, une porte claquait, comme dans un rêve. Des souris couraient dans les murs. Le pistolero pensa confusément que cet endroit était probablement le seul assez prospère en ville pour entretenir des souris. Il posa la main sur son ventre, et elle sursauta violemment, puis se détendit. « L'homme en noir !» souffla-t-il. « Il te faut ta réponse, hein ? Tu pouvais pas te contenter de me sauter, de dormir un coup ?» Il me la faut. D'accord. Je vais te raconter. Elle attrapa les mains du pistolero entre les siennes et elle lui raconta tout. Chapitre 7. Il était arrivé le jour de la mort de North. Dehors, le vent s'en donnait à cœur joie, soulevant du sol une épaisse couche de terre, faisant voler des pelletées de sable où tournoyait le maïs déraciné. Jabal Canerly avait cadenassé l'écurie et les quelques autres commerçants avaient obturé les fenêtres et cloué des planches en travers des volets. Le ciel était un jaune qui rappelait du vieux fromage, zébré de nuages qui fuyaient à toute allure, comme s'ils avaient vu quelque spectacle horrifiant dans les étendues désertiques qu'ils venaient de quitter. La proie du pistolero avait débarqué dans un chariot branlant, avec sa bâche accrochée à l'essieu et qui claquait au vent. Ils le regardèrent arriver, et le vieux Kennelly, allongé près de sa fenêtre avec dans une main une bouteille, et dans l'autre la chair chaude du sein gauche de sa deuxième fille, décida de ne pas répondre s'il venait frapper chez lui. Mais l'homme en noir poursuivit son chemin sans faire ralentir le cheval bai qui tirait son chariot, dont les roues soulevaient la poussière comme de l'écume, dont le vent s'emparait avec avidité. Ça aurait pu être un prêtre ou un moine. Il portait une robe noire toute farinée de poussière et sur la tête une capuche lâche qui lui dissimulait les traits, à l'exception de cet ignoble rictus ravi. La robe ondulait et claquait. En dessous de l'ourlet apparaissait le bout carré de lourdes bottines à boucles. Il s'arrêta net devant chez Cheb et mit le cheval à l'attache. L'animal baissa la tête et souffla vers le sol. L'homme décrocha un pan de la bâche à l'arrière du chariot et attrapa une sacoche fatiguée. Il se la jeta sur l'épaule et franchit les portes à battants. Alice l'observa avec curiosité, mais personne d'autre ne sembla remarquer son entrée. Les habitués étaient sous comme des barriques. Cheb jouait des hymnes méthodistes façon ragtime, et les vieux roublards qui étaient arrivés tôt, tant pour éviter l'orage que pour veiller Norte, s'étaient cassés la voix à trop chanter. Cheb, tellement saoul qu'il frisait le coma éthylique, mais très remonté, excité à l'idée que lui était encore en vie, jouait à un rythme trépidant, ses doigts tressautaient, volant littéralement sur les touches. Des voix beuglaient et braillaient à tue-tête, sans jamais couvrir le vent, même si elles semblaient parfois à deux doigts de relever le défi. Dans un coin, Zacharie avait retroussé les jupes d'Amy Feldon juste par-dessus sa tête et lui peignait les amulettes de la moisson sur les genoux. Quelques autres femmes allaient et venaient dans la salle, toutes semblaient habitées d'une étrange fièvre. Cependant, la lueur sourde de l'orage qui filtrait à travers les portes à battants semblait se rire d'elles. On avait allongé Norte sur deux tables au centre de la salle. Ses bottes de cheminot dessinaient un V mystique. Sa bouche pendait en un rictus béant, bien que quelqu'un lui eût fermé les yeux et posé des jetons sur les paupières. On lui avait croisé les mains sur la poitrine avec un brin d'herbe du diable entre les doigts. Il sentait le poison. L'homme en noir repoussa sa capuche en arrière et se dirigea vers le bar. Alice l'observait, et à cette trépidation se mêlait le besoin familier qui se tapissait à l'intérieur d'elle. Il ne portait aucun symbole religieux, même si ça ne voulait rien dire en soi. « Whisky, » dit-il d'une voix douce et agréable. « Et je veux du bon, chérie. » Elle attrapa une bouteille de Star sous le comptoir. Elle aurait pu lui refiler le torboyau local en prétendant que c'était son meilleur, mais elle ne le fit pas. L'homme en noir l'observa pendant qu'elle le servait. Il avait de grands yeux, lumineux. Les ombres étaient trop denses pour pouvoir en déterminer la couleur exacte. Elle sentait son désir s'intensifier. Derrière, les braillements et les cris continuaient de plus belle. Cheb, selon mon grinutile, improvisait sa version de « Soldat du Christ » et quelqu'un avait réussi à persuader Tante Mille de chanter. Sa voix voilée et faussée taillait dans le chahut comme une hache émoussée dans le crâne d'un veau. « Hey, Ali !» Elle alla servir en voulant à l'étranger pour son silence, pour ses yeux sans couleur et pour son bas-ventre insatiable à elle. Elle avait peur de ses besoins. Ils étaient capricieux. Elle n'avait aucun contrôle sur eux. Peut-être était-il le signe d'un changement qui serait lui-même le signe de la vieillesse. Un état qui, à Tull, était en général court et glacial comme un coucher de soleil hivernal. Elle tira de la bière jusqu'à vider le tonnelet, puis en mit un autre en Perse. Plutôt ça que de demander son aide à Cheb. Il ne rechignerait pas à venir quand elle l'appellerait en bon chien qu'il était, mais ou bien il se trancherait les doigts, ou bien il renverserait de la bière partout. Les yeux de l'étranger ne la quittèrent pas tout au long de l'opération. Elle les sentait sur elle. Il y en a du monde, fit-il, quand elle revint au bar. Il n'avait pas touché son verre. Il le faisait seulement rouler entre ses paumes pour le réchauffer. Veillée funèbre, dit-elle. J'avais remarqué le défunt. Rien que des bons à rien, lâcha-t-elle avec une haine soudaine. Tous autant qu'ils sont. Ça les excite. Il est mort, pas eux. Vivant, il était leur souffre-douleur. C'est pas juste qu'il le soit encore aujourd'hui. Elle laissa sa voix s'éteindre, incapable d'exprimer la situation, d'exprimer combien elle était obscène.
Mangeur d'herbe?
Oui.
Qu'est-ce qui lui restait d'autre?
Son ton s'était fait accusateur. Pourtant, l'homme ne baissa pas les yeux et elle sentit le sang lui monter au visage.
Je suis désolé. Vous êtes prêtre? Ça doit vous révolter.
Je ne suis pas prêtre et ça ne me révolte pas. Il avala le whisky d'un trait, sans grimacer. Un autre, s'il vous plaît, et mettez-y du sentiment, comme on dit dans le monde d'à côté. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il voulait dire, et elle eut peur de le lui demander.
Je dois d'abord voir la couleur de votre argent. Désolé.
Il n'y a pas de quoi. Il posa sur le comptoir une pièce d'argent grossière, épaisse d'un côté, fine de l'autre, et elle dit, comme elle devait le dire plus tard,
« J'ai pas la monnaie là-dessus. »
Il secoua la tête pour écarter le sujet et la regardait verser l'alcool d'un air absent.
« Vous êtes juste de passage ?» demanda-t-elle.
Il mit un long moment à répondre et elle était sur le point de répéter lorsqu'il secoua la tête d'un air impatient. « Ne parlez pas de la pluie et du beau temps. Vous êtes en présence de la mort. » Blessée et stupéfaite, elle eut un mouvement de recul et sa première pensée fut qu'il avait menti sur son état pour la mettre à l'épreuve.
« Vous l'aimiez, » fit-il d'une voix monocorde. « Je me trompe.
Qui ? Nort ?» Elle se mit à rire, affectant le mécontentement pour dissimuler sa confusion.
« Vous feriez mieux de vous avoir le cœur tendre, et un peu peur aussi, » poursuivit-il.
« Et il était accro à l'herbe. » Avec déjà un pied en enfer. Et le voilà, la porte a claqué derrière lui. Et vous vous dites que la prochaine fois qu'elle s'ouvrira, ce sera pour vous, n'est-ce pas?
Vous êtes sous ou quoi?
Monsieur Norton, lui, mort,
se mit à singer l'homme en noir en y mettant un petit accent sardonique.
Raide mort, on ne peut plus mort, comme vous.
« Fichez le camp de chez moi !» Elle sentait jaillir en elle un dégoût tremblant. Pourtant, la chaleur irradiait toujours de son ventre.
« Tout va bien, » fit-il d'une voix douce. « Tout va bien. Il n'y a qu'à attendre. Attendre, c'est tout. »
Bleu. Il avait les yeux bleus. Tout à coup, elle se sentit à l'aise. Comme si elle avait pris de la drogue.
Mort comme tout le monde, dit-il. Vous comprenez?
Elle hocha la tête avec stupeur et lui éclata de rire. Un rire superbe, fort, pur, qui fit se tourner les têtes. Il pivota et leur fit face, devenu soudain le centre d'attention. Tante Mille hésita dans les paroles, puis sa voix s'éteignit. Laissant saigner un aigu fêlé en suspens dans l'air. Cheb fit un couac et s'arrêta net. Tous regardaient l'inconnu d'un air gêné. Le sable crépitait contre les murs du bâtiment. Le silence dura. Le silence se délaya dans le silence. Elle sentit que son souffle s'était englué dans sa gorge. Elle baissa les yeux. Et vit ses deux mains crispées sur son bas-ventre, sous le bar. Tous le regardaient, et il les regardait tous. Puis son rire fusa de nouveau, fort, riche, évident, mais un rire qui n'appelait pas de compagnie.
« Je vais vous montrer un miracle !» leur lança-t-il.
Mais ils se contentaient de l'observer comme des enfants obéissants qu'on aurait emmené voir un magicien qu'ils seraient devenus trop vieux pour croire. L'homme en noir fit un bond en avant, et Tante Mille eut un mouvement de recul. Il eut un rictus féroce et lui donna une claque sur son gros ventre. Elle émit malgré elle un bref gloussement et l'homme en noir bascula la tête en arrière.
« C'est mieux, n'est-ce pas ?»
Tante Mille gloussa de nouveau, fondit brusquement en sanglots et se précipita dehors. Les autres la regardèrent s'enfuir en silence. L'orage était en train d'éclater. Les ombres se suivaient, allaient et venaient sur le cyclorama blanc du ciel. Près du piano, sa bière oubliée dans une main, un homme émit un son baveux, une sorte de grognement. Un rictus sur les lèvres, l'homme en noir se pencha au-dessus de Nort. Le vent pleurait, hurlait et raclait. Un bruit sourd ébranla le côté de l'immeuble, un choc assez fort pour le faire trembler, puis rebondit plus loin. L'un des clients, accoudé au bar, se secoua et migra vers des lieux plus calmes, à longues enjambées grotesques. Le tonnerre déchirait le ciel dans un tapage tel qu'on aurait dit que Dieu toussait.
« Très bien !» fit l'homme en noir en grimaçant. « Très bien ! Au travail !»
Il se mit à cracher au visage de Nort en visant avec précaution. Le crachat miroitait sur le fond du cadavre, perlait au bout de son nez lisse. Sous le bar, les mains d'Ali accélérèrent la cadence. Cheb se mit à rire comme un démon plié en deux. Il se mit à cracher des glaires, d'énormes amas gluants, et jura violemment. L'homme en noir approuva bruyamment et lui tapa dans le dos. Cheb eut un grand sourire qui laissa étinceler une dent en or. Certains se défilèrent, d'autres formèrent un large cercle autour de Nort. Son visage et les plis en fanon de son cou et de sa poitrine scintillaient à cause de ce liquide si précieux dans ce pays si sec. Et soudain, la pluie de crachats stoppa comme obéissant à un signal. On entendit une respiration lourde et irrégulière. L'homme en noir bondit brusquement à travers du corps en un arc souple. Une pose splendide, comme un jet d'eau. Il se réceptionna sur les mains, sauta sur ses pieds en un coup de rein, sans se départir de son rictus, puis repassa par-dessus le cadavre. L'un des spectateurs s'oublia, se mit à applaudir, puis s'éloigna soudain à reculons, les yeux embués de terreur. Il plaqua une main tremblante devant sa bouche et courut vers la porte. Nort sursauta à la troisième cabriole de l'homme en noir. Un son s'éleva dans l'assemblée, un grognement. Puis, ce fut un silence total. L'homme en noir renversa la tête en arrière et hurla. À chaque inspiration, sa poitrine se soulevait en un mouvement rapide, comme à vide. Il se mit à aller et venir au-dessus du corps de Nort à une cadence plus soutenue, se coulant sur lui comme de l'eau passant d'un verre à l'autre, encore et encore. Le seul son audible dans la salle était le grincement déchirant de sa respiration, scandé par la pulsation de l'orage qui s'amplifiait. Puis vint le moment où Nort inspira profondément, une inspiration sèche. Ses mains se mirent à s'agiter et à frapper la table vainement. Cheb poussa un cri perçant et sortit. L'une des femmes le suivit, les yeux écarquillés et la guimpe qui tournoyait. L'homme en noir se coucha encore une fois, deux fois, trois fois. À présent, le corps sur la table vibrait, tremblait convulsivement, se contorsionnait comme une grosse poupée, pourtant sans vie, mais animée par un monstrueux mécanisme dissimulé en son sein. Un relent mêlé de pourriture, d'excréments et de moisies s'éleva en vagues suffocantes. Puis vint le moment où ses yeux s'ouvrirent. Ali sentit ses pieds transis et engourdis la propulser en arrière. Elle se cogna au miroir, ce qui le fit trembler, et une panique aveugle s'empara d'elle. Elle bondit comme un cabri.
« Le voilà ! Votre miracle !»
lui lança l'homme en noir.
« Je vous l'ai donné !»
Désormais, vous pourrez dormir tranquille. Même ça, ce n'est pas irréversible. Bien que ce soit foutrement drôle. Et il se remit à rire.
Le son s'estompa lorsqu'elle bondit dans l'escalier, mais ne se tut que lorsqu'elle eut verrouillé derrière elle la porte du couloir qui menait aux trois chambres au-dessus du bar. Alors un gloussement nerveux la reprit, et elle se mit à balancer d'avant en arrière, près de la porte. Son rire s'intensifia comme une mélopée funèbre venant se mêler au vent gémissant. Elle ressassait mentalement le bruit qu'avait fait Nort en revenant à la vie, le bruit d'un poing martelant aveuglément le couvercle d'un cercueil. Quelle pensée pouvait-il bien rester dans ce cerveau réanimé? Qu'avait-il vu dans la mort? Que se rappellerait-il? Voudrait-il la raconter? Les secrets de la tombe l'attendaient-ils en bas de cet escalier? Elle se rendit compte que le plus horrible dans toutes ces questions, c'était cette partie d'elle-même qui avait tellement envie de savoir.
Au-dessus d'elle, Nort errait à l'aveuglette dans l'orage, à la recherche d'herbe. L'homme en noir, seul client restant dans le bar, le regarda peut-être partir, avec peut-être sur les lèvres son immuable rictus.
Lorsqu'elle se força à redescendre ce soir-là, portant dans une main une lampe et dans l'autre une lourde bûche de bois de chauffe, l'homme en noir avait disparu avec son véhicule. Mais Nort était là, assis à la table près de la porte, comme s'il ne l'avait jamais quitté. Il sentait de nouveau l'herbe, mais pas aussi fort qu'elle l'aurait cru. Il leva les yeux vers elle et esquissa un pauvre sourire. « Salut, Ali. »«
Salut, Nort. »
Elle posa la bûche par terre et entreprit d'allumer les lampes sans lui tourner le dos. « Dieu m'a touché, » dit-il au bout d'un moment. « Je vais plus mourir, tu sais. » Il me l'a dit. Il a promis.
« Je suis bien contente pour toi, Nort. »
L'allumette qu'elle tenait glissa entre ses doigts tremblants, mais elle la rattrapa. « Je voudrais arrêter de chiquer de l'herbe. Ça me plaît plus. C'est pas bien pour un homme qui a été touché par Dieu. » De chiquer de l'herbe. Alors pourquoi tu n'arrêtes pas? Elle était tellement exaspérée qu'elle le regardait de nouveau comme un homme, non plus comme un miracle infernal. Tout ce qu'elle voyait, c'était un spécimen plutôt triste, seulement à moitié drogué, avec un air honteux de chien battu. Elle ne pouvait plus avoir peur de lui.
Je tremble, fit-il. Je suis en manque. Je peux pas arrêter. Ali, toi qui as toujours été bonne pour moi. Il se mit à sangloter. Je peux même pas m'empêcher de me pisser dessus. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis?
Elle s'approcha de la table et s'arrêta, hésitante.
« Il aurait pu faire en sorte que je sois plus en manque, » dit-il à travers ses larmes.
« Il pouvait bien faire ça, s'il a pu me faire revivre. Je me plains pas, hein. Je veux pas me plaindre. »
Il parcourut la salle du regard, l'air égaré, et murmura. « Sinon, il pourrait me tuer d'un coup.
C'est peut-être une blague. » Il avait l'air d'avoir un sacré sens de l'humour.
Nort attrapa sous sa chemise son petit sac et en sortit une poignée d'herbe. Sans réfléchir, elle frappa le poignet pour la lui faire lâcher, puis retira sa main, horrifiée.
« J'y peux rien, Ali. C'est plus fort que moi. »
Avec ses manières d'infirme, il alla piocher dans le sac. Elle aurait pu l'en empêcher, mais... elle ne se donna pas la peine. Elle retourna allumer les lampes, déjà fatiguée alors que la soirée commençait à peine. Mais personne ne vint ce soir-là, à part le vieux Kennerly qui avait tout raté. Il ne parut pas surpris outre mesure de voir Nort. Peut-être quelqu'un lui avait-il dit ce qui s'était passé.
Il commanda une bière, demanda où était Cheb, et la plota. Plus tard, North vint la trouver et lui tendit un morceau de papier plié d'une main tremblante, indigne d'être en vie. « Il a laissé ça pour toi, » dit-il. « J'ai failli oublier. Si j'avais oublié, il serait revenu et m'aurait tué. Tu peux en être sûr. » Le papier était précieux. Une denrée à chérir. Pourtant, elle n'aimait pas le contact de celui-là. Il était lourd, désagréable au toucher. Dessus, un seul mot. Ali. Comment il a su mon nom ? Demanda-t-elle à North. Et North se contenta de hocher la tête. Elle ouvrit le papier et le lut. Vous vouliez en savoir plus sur la mort ? Je lui ai laissé un mot. Ce mot, c'est 19. Si vous lui dites ce mot, son esprit s'ouvrira. Il vous dira ce qu'il y a au-delà. Il vous dira ce qu'il a vu. Le mot est 19. La réponse vous rendra folle. Mais tôt ou tard, vous poserez la question. Vous ne pourrez pas vous en empêcher. Bonne journée. Smiley. Walter Odim. Postscriptum. Le mot est 19. Vous essaierez d'oublier, mais tôt ou tard ça sortira de votre bouche, comme du vomi. 19. Et... Oh mon Dieu, elle savait qu'il disait vrai. Déjà, il tremblait sur ses lèvres. 19. Elle allait le dire. North, écoute. 19. Et les secrets de la mort et de l'au-delà s'ouvriraient à elle. Tôt ou tard, vous poserez la question. Le lendemain, tout était presque revenu à la normale, même si plus aucun enfant ne suivait North. Le surlendemain, les sifflets réapparurent. La vie avait repris son petit cours tranquille. Les enfants ramassèrent le maïs déraciné, et une semaine après la résurrection de North, ils le brûlèrent au milieu de la rue. Pendant un court moment, le feu fut éclatant, et la plupart des piliers de bar sortirent en titubant plus ou moins pour regarder. Ils avaient un air primitif. Leur visage semblait flotter entre le rougeoiement des flammes et l'éclat de givre du ciel. En les regardant, Ali ressentit un pincement de désespoir, le désespoir fugace qu'on éprouve dans les moments de tristesse, ici-bas. Le deuil. Les choses s'étaient distendues. Il n'y avait plus de col au centre, désormais. Quelque part, quelque chose vacillait, et lorsque ça tomberait, ce serait la fin de tout. Elle n'avait jamais vu l'océan. Et ne le verrait jamais. Si seulement j'avais des tripes, balbutia-t-elle. Si j'avais des tripes, des tripes, des tripes. Au son de sa voix, North leva la tête et lui sourit, d'un sourire vide, venu de l'enfer. Elle n'avait pas de cran, rien qu'un bar et une cicatrice. Et un mot qui se débattait derrière ses lèvres closes. Et si elle l'appelait maintenant, si elle l'emmenait à l'écart en dépit de cette puanteur, et si elle prononçait le mot dans ces foutus trous cireux qui l'appelaient des oreilles, ses yeux changeraient. Ils deviendraient ses yeux à lui, à l'homme en robe noire. Et alors North raconterait ce qu'il avait vu au pays des morts, ce qu'on trouverait au-delà de la terre et des vers. Jamais je ne lui dirai ce mot. Mais l'homme qui avait ramené North à la vie et qui lui avait laissé un mot à elle, un mot comme un pistolet chargé qu'elle se mettrait un jour sur la tempe. Cet homme-là savait ce qu'il faisait. 19 ouvrirait le secret. 19 était le secret. Elle se surprit à l'écrire dans une petite flaque sur le bar. 19. Et brouilla le tout en remarquant que Nort l'observait. Le feu diminua rapidement et ses clients rentrèrent. Elle se servit une première dose de Star et avant le milieu de la nuit, elle était fin saoule.